Ça marche, voilà. Donc, ce qui m'a été demandé, c'est de vous parler d'éducation dans l'histoire, et comment les protestants se sont manifestés, engagés dans l'histoire, et c'est mon champ de recherche de manière générale. L'éducation, l'histoire de l'éducation, l'histoire des idées éducatives, et dans ce domaine plus spécialisé dans l'histoire des éducatives apportées par les protestants. Alors, protestant, je le précise tout de suite au sens large du terme, je ne sélectionne pas une confession de foi, un baptême, c'est tout ce qui se rattache au protestantisme. Et puis on ne parlera pas de toutes ces personnes, hein, mais on en parlera, c'est juste un certain nombre. Alors, mon objectif, c'est donc d'essayer de dresser un panorama, on peut dire une histoire, de cet engagement des protestants en éducation. Et l'idée, ce n'est pas de vous donner des recettes, je n'en ai pas, mais c'est pour essayer de rappeler quel est notre héritage pour penser l'éducation. Et donc ensuite, les échanges sont là. Alors si on voulait mettre une question, ce serait quelles sont les idées éducatives héritées des protestants du XVIe au XIXe siècle. Je m'arrête au XIXe parce qu'on va parler tout à l'heure plutôt de l'actualité, donc je laisserai l'actualité, donc de la réforme Loi-Ferry. Pour ceux d'entre vous qui ont une formation d'enseignant, je ne suis pas sûre que vous ayez beaucoup de formation sur l'histoire de l'éducation, mais ça existe. Et donc voilà ce qui va nous intéresser, que l'on soit engagé dans le public, où il y a 83% en gros des élèves actuellement qui sont engagés dans les établissements publics en France, 17% dans le privé, alors on dit 0,5% dans le privé hors contrat, c'est pas seulement confessionnel, hein, c'est hors contrat donc, ou sous contrat, avec aussi parfois des spécificités pédagogiques. Et on rappelle qu'aujourd'hui la France est sous le code de l'éducation, rappelle que l'État proclame et respecte la liberté d'enseignement, garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Alors après la question c'est régulièrement ouvert, qu'est-ce que ça signifie, hein? Ça veut dire qu'en France, l'école n'est pas obligatoire. C'est l'instruction qui est obligatoire, sous différentes formes. Pour ceux d'entre vous qui travaillez dans le cadre en tant que protestant dans l'éducation, la plupart d'entre vous, vous travaillez sans doute dans le public. Alors moi, je travaille un peu dans les deux, puisque je suis à la fois en tant que vacataire dans l'enseignement public supérieur et en tant qu'enseignante en théologie en France de l'intérieur, on est forcément dans du hors contrat puisqu'il y a la séparation entre les églises et l'État. D'autres travaillent peut-être dans le privé sous contrat. Alors en France, c'est le moins nombre que 5 établissements, donc le moins grand nombre d'établissements, mais le plus d'élèves. Quoique, on saura peut-être un peu cet après-midi combien regroupent les écoles hors contrat. Qui sont au moins plus d'une trentaine, on verra ça cet après-midi. Alors que vous soyez, quel que soit le type d'établissement dans lequel vous travaillez, ou vous êtes peut-être étudiant ou élève, c'est pour essayer de penser l'éducation, quelle que soit notre situation. Un petit dessin humoristique. Oui, papy, on va avoir école le mercredi matin. Et le papy qui répond... Alors, c'est le jeudi qui sera à nouveau libéré. Cela pour nous rappeler simplement qu'on pense, et c'est normal, quel que soit le domaine, à partir de ce qu'on connaît. Et j'aimerais juste qu'on puisse peut-être un peu se décentrer durant les moments qui vont suivre, pour nous centrer plutôt sur ce que d'autres ont vécu. Et je vous propose un parcours qui est chronologique. Il y a quelques éléments concernant les réformateurs et l'école au XVIe siècle. Sur ensuite la pédagogie piétiste morave, on peut dire, alors bien sûr les siècles, c'est des chiffres ronds, hein, ça déborde entre le 17e et 18e, et puis les protestants et l'école du peuple en France au 19e, essentiellement avant la loi Ferry, et au moment où on a la loi Ferry qui va se mettre en place. Donc on va décliner ça, si vous le voulez, dans cela, pour nous donner un paradigme un petit peu aussi pour penser l'éducation et prolonger après. Alors on dit quelques chiffres, quelques repères historiques, théoriques au départ, qu'il y avait à peu près 2000 écoles en 1562. Alors c'est un chiffre très théorique, hein, les personnes étaient là pour faire le compte. On sait que Théodore de Bèze avait évalué à peu près à 2150 églises en 1562. Et en fait, il y avait des groupes, ce n'était pas des églises constituées, c'était aussi des groupes qui se réunissaient. Donc du coup, on dit comme il y avait souvent une église, une école par église, parce que le pasteur était le seul universitaire, donc il apprenait à lire aux enfants. C'était des fois chez lui, des petits groupes, des fois c'était un peu une classe plus grande, mais il ne faut pas imaginer des grandes écoles comme on peut connaître aujourd'hui. Donc sur 2150, ça fait à peu près 2000, c'est un chiffre, en tout cas qui nous dit qu'il y avait une grande implication dans l'éducation des enfants par la réforme, dès qu'elle s'est mise en place en France. Bon, l'édit Nantes, c'est rélocation d'édit Nantes, c'est les écoles buissonnières. On sait que c'est le terme qui a été employé initialement pour parler des écoles clandestines, avec donc, l'interdiction et l'enseignement. Puis après, donc, c'est à partir du 19e que les choses vont redémarrer avec l'Église protestante qui redémarre de ses cendres en France. Donc je me place vraiment dans la perspective de la France ici, puis on va voir. Si on veut retenir un chiffre rond, 1500 écoles qui sont protestantes au moment où la loi Ferry va être promulguée. On a aussi des académies. Alors, les académies, c'est préuniversitaire, universitaire. C'est ces lieux où on va jusqu'à peu près, on dirait aujourd'hui, la maîtrise. Le baccalauréat n'était pas. On ne pouvait pas faire de thèse dans une académie. Et il y en a eu plusieurs qui se sont développées, qui ont donc rayonné en France. Au moment où la réforme a été mise en place en France, avant la révocation de l'édit de Nantes. Quelques repères plus théoriques, et là je me réfère à Jean Amos Comenius, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est vraiment bizarre, disciple de Jean Hus. Alors, si vous avez un bouquin à lire d'histoire d'éducation, c'est la grande didactique de Comenius, elle est traduite en français, n'hésitez pas. Il rappelle plusieurs choses, entre autres, que l'éducation est propre de l'homme. Les animaux, entre eux, ne s'éduquent pas. Il y a l'instinct qui va être mis en route. Nous dressons les animaux, mais l'homme est celui qui éduque sa progéniture pour devenir adulte. Hein, on a besoin d'être formé pour devenir un homme. Et l'autre élément, c'est l'éducation en tant que fait social. Alors, il va jusqu'à dire, il est évident, il spécule, hein, qu'avant la chute, il existait au paradis une école dans laquelle l'homme progressait régulièrement. Personne n'était là pour voir, mais c'est une déduction du texte de la Genèse qui dit que le premier homme a dialogué avec Dieu et Dieu lui confie la charge de nommer des animaux, de garder le jardin, et puis ensuite ça se transmet, on n'invente pas le nom des animaux, chaque génération, hein, on va transmettre un certain nombre de choses. Ce qui est important pour nous, c'est de voir ce fait social, qui explique, comme pour le travail, comme pour le mariage, qu'on trouve ça dans toutes les cultures, qu'elles soient chrétiennes ou non. On a ce fait qu'on éduque, qu'on travaille, et ces éléments du mariage, et ce qui permet aussi de comprendre, par exemple, ou d'accepter, hein, que c'est légitime, même si ce n'est pas complet ou biblique dans le sens des évangiles, que Moïse a été éduqué, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, était puissant en parole et en œuvre. C'était un fils de. Élevé comme un fils de Pharaon. Pharaon, c'est un dieu, hein, un fils de dieu. Donc, avec toute la sagesse qu'il apprenait par cœur, hein, style nos proverbes qu'on a dans l'Ancien Testament, mais qui était tout à fait païen, en tout cas dans la religion des Égyptiens. On se souvient que Paul allait dans cette école du grammairien Tyrannus pendant l'heure de la pause. S'il ne travaillait pas, quand il n'avait pas l'école, il enseignait les chrétiens, donc il y avait aussi, dans ce contexte, des écoles. Alors, une grande envolée du pasteur Théodore Gérold, c'est en 1888, donc c'est juste après les lois Ferry, je rappelle, 1881-82, les lois Ferry qui vont instituer l'école qui sera obligatoire, l'école qui sera gratuite et les programmes scolaires qui sont laïcisés. Il dit, l'enseignement primaire à ses débuts est une chose protestante, la réforme a été ce berceau. L'école populaire ou primaire est la création du protestantisme, elle appartient plus particulièrement au peuple protestant et s'est développée en leur sein. Et dans l'ouvrage du curé Ouzou, ils affirment que en son temps Luther a rendu nécessaire ce que Gutenberg a rendu possible. Mais, je pense que vous vous souvenez peut-être, en tout cas pour les plus anciens d'entre vous, d'une chanson de France Gall qui disait. Ce maudit Charlemagne qui a inventé l'école, qui a eu cette idée folle d'inventer l'école. Et on parle de Charlemagne. Alors, il y a eu des choses qui ont existé avant la réforme, mais qui n'ont pas abouti. Et donc la réforme de Charlemagne en 789 qui a essayé d'engager les moines, les prêtres qui accueillaient les enfants pour les former. Non pas seulement accueillir les plus pauvres, mais aussi les gens libres, donc ceux qui étaient des chevaliers, on se souvient là, des trois ordres, hein, des choses que vous connaissez, qui ont été là bouleversées avec la réforme. Les clercs, ceux qui prient, c'est les prêtres, c'est les moines, c'est là où il y a la culture qui se transmet. Bon, ça ne veut pas dire que tous les prêtres étaient forcément de grands intellos, hein, mais... les chevaliers, alors c'est plutôt ceux qui vont être les administrateurs, les gestionnaires, les sportifs, parce que bon, c'est l'armée, hein, faut faire la guerre, faut être sportif. Et puis, le sport, c'est ça au départ, hein, c'est pour l'armée. Et les cultivateurs, c'est eux qui bossent, ils travaillent, et c'est eux qui font un apprentissage. Donc on a aussi ce schéma encore aujourd'hui en France, l'apprentissage, c'est de casser des choses. Hein. Mais l'apprentissage, c'est pour ceux qui apprennent de leurs parents ou de l'artisan. C'est ceux qui travaillent. Ceux qui sont les intellos sont au-dessus, c'est les prêtres. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être nous aider aussi à comprendre des fois certaines cultures, des choses qui nous marquent de manière inconsciente. Alors, qu'est-ce qu'a apporté d'un point de vue aussi théorique Luther dans sa vision, sa pensée de l'école? C'est l'école pour tous. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Il va casser ces trois ordres en disant... Rappelez le sacerdoce universel des croyants, on est tous prêtres et rois quand on est croyants selon les Écritures. Et donc il faut apprendre à épeler les mystères de la religion personnellement. L'école n'est pas réservée qu'aux religieux ou bien à certains dirigeants. Il faut pouvoir contrer lorsque celui qui prêche dit des bêtises, il faut pouvoir vérifier ce qui est dit. Et puis cet aspect-là qui est important. Et donc le fait d'éduquer a une fonction religieuse de vérification, d'appropriation personnelle de ce qui est juste et d'en décider, sans magistère de l'Église derrière. Et puis il y a toute cette notion du métier qui est un ministère, une vocation. Il n'y a pas que le prêtre, que le moine qui est quelqu'un qui a une vocation, c'est tout chrétien, que l'on soit enseignant, que l'on soit juriste, que l'on soit médecin, quel que soit, que l'on soit plombier, on a cette vocation en tant qu'intendant de Dieu de mettre en valeur les biens de Dieu. Donc on est dans une perspective sociale qui va la changer et qui va donc engager un travail différent aussi d'un point de vue intellectuel. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Le grand Erasme disait « Là où règne la doctrine luthérienne, c'est la fin de la science. » Et pourquoi? Parce qu'il fermait les monastères. Et les monastères, c'était là où il y avait l'enseignement qui était transmis. Hein. On se souvient que les enfants, les oblats en particulier, les plus pauvres, qu'il y avait les enfants d'agriculteurs qui n'étaient pas les aînés et qui voulaient s'élever au niveau social, bien, c'était l'éducation qui était une possibilité. Donc là, une cathédrale, je ne sais plus trop où c'est, où tous les enfants sont là autour du maître, mais il y en a un toujours qui vient pour répéter, on a le préceptorat simultané dont on parlait tout à l'heure, qui est mis en place. Et puis il y avait aussi des maîtres sur Paris, il y en avait en 1380 41 maîtres et 21 maîtresses, donc ce n'était pas des prêtres, mais qui étaient forcément des catholiques. Hein. Dans la scolastique, on va avoir... Les humanités qui vont être mises enseignées dans la première partie de l'éducation, et ensuite on va avoir des éléments qui seront un peu plus scientifiques, si on veut dire les choses comme cela. La discipline reine, c'était la théologie qui suivait dans ce domaine-là, donc c'est 8 années d'études après. Si vous vouliez vous marier, vous n'avez pas intérêt de faire la théologie en tant que catholique, vous faisiez du droit canon, bien entendu. La médecine était assez mal vue, c'est après que les choses ont changé. Alors pour ce qui concerne les protestants, ce ne sont pas les réformateurs qui sont les pédagogues majeurs, ce sont plutôt leurs collaborateurs. En Allemagne, c'est Philippe Melanchthon qui est le précepteur d'Allemagne. À Strasbourg, ce n'est pas Bucer, mais c'est Jean Sturm. À Genève, ça va être Mathurin Cordier qui va être le pédagogue de la réforme, même s'il va quitter Genève, être à Lausanne, il va revenir à 82 ans pour être instituteur. De la classe de 5e, je crois. Ça l'arrangeait d'avoir aussi un peu d'argent, parce qu'il n'y avait plus rien. Hein. Théodore de Besse, qui est le recteur du collège. Ce que je veux juste souligner ici, c'est que ce sont des universitaires qui sont des instituteurs. Des gens qui ont fait une formation théologique, qui ont une formation qui était. Sauf Calvin, qui était. Alors lui, en tant que réformateur, qui était juriste, les autres étaient des prêtres. En tout cas, ont fait des études poussées de leur temps. Mais ça ne va pas de soi, tout cela. Luther a de bonnes idées, mais changer les mentalités, dans tous les temps, c'est compliqué. Et voici ce qu'il écrit en 1520, donc c'est 3 ans après les thèses hein, qu'il a affichées. J'ai honte de nos chrétiens quand je les entends dire l'instruction est bonne pour les ecclésiastiques, mais elle n'est pas nécessaire aux laïcs. Ouais, il serait indifférent que le prince, le seigneur, le conseiller, le fonctionnaire fût un ignorant ou un homme instruit capable de remplir chrétiennement les devoirs de sa charge. Comprenez, il nous faut dans tous les lieux des écoles, pour nos garçons, afin que l'homme devienne capable d'exercer convenablement sa profession et la femme de diriger son ménage et d'élever chrétiennement ses enfants. On n'est pas dans les études universitaires, on n'est pas à faire le bac et de faire, enfin, c'est pas à ce moment-là. C'est vraiment l'école populaire pour vivre chrétiennement sa situation en tant qu'entrepreneur, artisan, que femme au foyer. Hein, c'était vraiment ça son idée. Et l'école est publique, c'est pas les parents qui vont payer l'école, ce sera la responsabilité de l'État. C'est à vous, Seigneur, qui dirige les différentes régions, de prendre cette œuvre en main. Car si on remet ce soin aux parents, nous périrons 100 fois avant que la chose se fasse. Et qu'on n'objecte pas qu'on manquera de temps pour instruire les enfants. On en trouve bien pour leur apprendre à danser, à jouer aux cartes. Les filles, elles aussi, ont assez de temps pour qu'on exige d'elles qu'elles aillent chaque jour à l'école au moins une petite heure. C'était pas toute la journée. Juste une petite heure qu'elles aillent. Elles emploient bien plus mal leur temps lorsqu'elles passent plusieurs heures à danser, à conduire des rondes ou à dresser des couronnes. Alors, en disant cela, l'école d'État, c'est aussi les princes qui sont des princes qui ont accepté la réforme. Puisque là, il n'y a pas le choix. On n'est pas sous une république ou un canton qui est laïque. On est forcément, on adhère à la religion du prince. Si on n'avait pas envie d'adhérer à la religion du prince, vous restez de déménager. Mais si vous êtes agriculteur, vous avez vos terres dans un coin. Ce qui veut dire que la communauté des croyants ici, réformée, n'était pas une communauté de professants. Il fallait bien suivre les choses. L'école a aussi pour Luther une fonction sociale. Il va dire que la prospérité d'une cité ne dépend pas seulement de ses richesses naturelles, la solidité des murs, de l'élégance des maisons, de l'abondance des armes dans ses arsenaux. Le salut, la force d'une ville réside surtout dans la bonne éducation qui lui donne des citoyens instruits, raisonnables, honnêtes, bien élevés. Donc aussi dans cette optique sociale de l'utilité. Alors on va voir une école humaniste qui se développe, et je vais prendre en particulier Jean Sturme, certaines choses qui rappelaient un petit peu ce qu'il en est. Alors quel est l'idéal de l'humanisme à cette époque-là? Qu'est-ce qui va être spécifique à l'humanisme chrétien? Pour les humanistes, c'est le retour aux auteurs classiques. Au bon latin, au pur latin, c'était du mauvais latin avant, non, c'était du bon latin, au grec, et aussi donc à l'hébreu pour ceux qui vont faire la théologie après. Et l'idée, c'est de reproduire l'idéal de l'homme classique, ça que je mets Cicéron. Et quel est cet idéal? C'est d'être un homme éloquent, qui est rempli, pétri de connaissances, et quand on est chrétien, on veut aussi qu'il soit pieux. On peut dire le bien vivre, bien penser, bien parler. Et c'est par imprégnation du vocabulaire, des traductions qui vont être faites, du style des auteurs de l'époque, des leçons qui sont mémorisées. On veut arriver à cet idéal de l'homme classique, l'homme antique. Alors, Sturm, ce qui va modifier, ce qui va changer, c'est surtout au niveau didactique, de l'ordre didactique des choses, qui va inventer ce qu'on appelle aujourd'hui les classes de niveau, avec une formation... avec un maître par classe, qui n'existait pas avant, c'était plutôt du préceptorat. Il ne l'a pas inventé, il a été lui-même à l'école, chez les frères de la vie commune, à Liège, qui avaient déjà ce système, et ils ont aussi inspiré les jésuites, qui avant, en parallèle, les jésuites, le ratio, donc la règle, le plan d'étude des jésuites, est écrit, je crois, en juillet, de la même année que Calvin, en juin, publie son plan pour Genève. C'est donc un plan gradué, et on va aller donc de classe en classe, avoir des groupes avec des niveaux qui vont s'élever, un maître par classe, et le maître décide à la fin si vous avez assez acquis les compétences pour aller dans le niveau supérieur. Donc ce qui va être spécifique là, c'est l'orientation de foi, et ce sera l'idée d'avoir une piété cultivée qui va être mise en place. je reviens un petit peu en arrière, ce n'est pas pour aller dans les détails, mais c'est pour voir cette progression. En Allemagne, Jacques Mélenchon, on a, par le catéchisme de Luther, qu'on apprend à lire, je crois que c'est un élément important, on apprend à lire, non pas avec la Bible, ce n'est pas l'alphabet, la Bible, hein, mais on va apprendre autre chose, hein, ce sera Luther. Et ce qu'on oublie aussi, parfois, on pense à Luther qui a traduit, écrit l'allemand, qui a traduit la Bible en allemand et le culte dans la langue vernaculaire. C'est l'école latine qui est développée ici, hein. On va avoir tout à fait cette école latine. Donc on va avoir progression avec l'alphabet et déjà le catéchisme. Ensuite, la grammaire qui se développe pour ensuite en arriver à une dernière étape de la rhétorique, de la dialectique. On retrouve pareil, là, je prie pour Sturm. Le premier degré, c'est la maîtrise de la lecture. Ensuite, la maîtrise de la grammaire. Et ensuite, la maîtrise de l'éloquence. On a vraiment ces niveaux qui se développent. Et on a, je m'intéresserais peut-être à faire un petit peu un zoom sur ce qui s'est passé à Genève avec Calvin. Les trois degrés institutionnels, c'est l'école domestique, donc à la maison. Le gymnase, qu'on appelle parfois donc, collège ou école latine. Ensuite, l'académie, qui est la haute école, équivalent pour prendre un terme actuel, qui ne mène pas à préparer un doctorat, là il faut aller à l'université pour cela. Je voudrais juste attentif au bâton, on a parlé de la Troisième République et du bâton, c'était déjà là. Hein. Alors c'est déjà au Moyen-Âge, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même très présent dans le contexte de l'époque. C'est donc le collège de Calvin. Et on va avoir ensuite, surtout les petites classes, il y a plus de 100 élèves pour les toutes petites classes. L'école est obligatoire et gratuite au début à Genève, et surtout pour les petites classes, pour que tout le monde apprenne à lire et un peu à écrire. Donc on a des curions, c'est les responsables du petit groupe hein, qu'on a mis en place. Ils vont faire des travaux de groupe pour surveiller les devoirs. Et si un élève était défaillant, on le traitait de nota asini, par exemple. Vous pouvez traiter quelqu'un comme ça fera bien avec vos élèves, ils ne comprendront pas. Sauf si je cherche sur Google tout de suite. Donc, c'était pas très sympathique. Un autre concept qui se développe, c'est le concept d'émulation, qui va être amené à son paroxysme avec les jésuites, avec les notations chiffrées et tout cela. Là, on va mettre en valeur donc, ce travail bien fait par les étudiants, on va les mettre en concurrence avec différents prix. On a eu des médailles là, qui sont données pour médailles de diligence et de piété. On va avoir donc aussi ce développement, 7 classes pour le collège. D'abord apprendre à lire, ensuite on va enseigner le grec à partir de la quatrième. On va voir les détails, hein, quel âge ça fait. Puis ensuite on a la didactique, la rhétorique. Et notre ami Farel, un élève aurait été affligé si un élève ne travaillait pas plus de 14 heures par jour. On n'est pas 35 heures par semaine. Alors, j'ai fait un petit peu le détail, pas non plus pour regarder, mais donc, on peut dire que c'est l'équivalent à la 7e, 6e du préparatoire chez nous. L'enfant a 5-6 ans et on apprend à lire avec le catéchisme en latin français. Parce que le but, c'est de faire ensuite du latin. Et tout sera en latin. Et quelqu'un comme Mathurin Cordier, l'idéal, c'est de parler tout le monde en latin, parler à la maison en latin, parler dans la vie en latin. C'est le nec plus ultra. On va voir, ils ont 8-9 ans quand ils font du grec. Le grec qui commence, hein. C'est ça, là, hein, juste pour donner un petit peu des... Alors, tout le monde n'allait pas forcément jusque-là, hein. Ils arrêtaient certains avant. Hein. Et donc, après, on va lire... L'école, c'est traduire des textes des anciens en grec, en latin, et on va avec des textes de plus en plus complexes pour bien s'imprégner du style... Alors, peut-être ce qui vous intéresse, c'est un emploi du temps de l'époque. L'école commence à 6 heures. Enfin, à 7 heures en hiver, quand même, parce qu'il fait froid. Et en plus, il n'y a pas de chauffage. Donc, on a l'appel, parce qu'au début, l'école est obligatoire, la prière. Une heure, c'est à Genève, protestant, réformé. Vous ne pouvez pas penser autrement, de toute façon. Vous avez la pause à 7h30 en silence. Alors c'est 8h30 quand c'est en hiver. Vous avez une autre leçon de 8 à 9. Et ensuite, la matinée se termine. Une prière, des actions de grâce. Et on rentre manger à la maison à 9h. La pause midi, c'est 9h. Mais ils ont commencé tôt, ils se sont levés tôt. Ensuite, répétition collective de l'apprentissage, sauf ceux qui ont un précepteur à la maison. parce que là, c'est, ça va être payant, autrement c'était gratuit. Le mercredi, ils allaient matin au culte, donc dans leur quartier, il y avait des églises, hein, c'était pas dans l'école, et les maîtres étaient là, ils faisaient vérifiaient les présences, hein, c'était obligatoire. Le samedi matin, des révisions, et pareil, le dimanche, ils vont aller à l'église, et aussi une vérification que tout se passe bien. Tout le monde se retrouve à 11h, c'est l'après-midi. On chante les cantiques, les psaumes, donc ça tous les jours, hein. Ça veut dire que les psaumes étaient connus. Une leçon d'une heure, après un goûter sans tumulte, hein, ça veut dire une récréation, hein, sans... l'étude, donc on apprend par cœur. Le mercredi, c'est les études par écurie, donc par groupe. On a déjà ces études par groupe qui se mettent en place. Et qui sont de théâtre aussi pour l'expression orale. On se réunit à 16h au son de la cloche. Sanction publique pour ceux qui méritent une sanction. Et ensuite, trois écoliers récitent le Notre Père, l'un, l'autre à confession de foi, le décalogue. Au bout de plusieurs années, vous connaissez ça par cœur sans aucun problème. Hein. C'est pas sûr que vous avez tout compris, mais en tout cas, vous êtes pétri de cette connaissance des textes bibliques. Et le samedi, le catéchisme qui était répété, et le catéchisme ensuite aussi le dimanche. Petite idée de l'enseignement, et dans les différents collèges, on va retrouver ça, l'humanisme qui va mettre l'homme antique en avant, et la foi chrétienne, avec tous ces éléments d'enseignement biblique autour. Les choses vont, et les images vont montrer évoluer avec les pédagogues mouraves ou piétistes. Et je prends ici avec Comenius le premier livre d'images pour apprendre à lire, apprendre du vocabulaire. Alors c'était le premier vocabulaire en latin maintenant, puis ensuite ça va se mettre dans d'autres langues. Ce sont des images avec des numéros qui renvoient à des mots de vocabulaire. Et alors on va avoir, là je prends d'autres pages, vous avez des choses très pratiques de la vie de tous les jours. On n'est plus dans le monde antique, on est dans la vie courante, dans le travail, de l'agriculture, d'un artisan. On a des dessins, des planches sur des questions religieuses, sur des questions bibliques, et on va avoir pareil. Le principe, c'est de mettre des petits numéros, puis ensuite sur l'image, et puis vous avez en dessous les textes qui permettent d'apprendre le vocabulaire. Vous avez Jean-Frédéric Oberlin, Balcon de la Roche, qui va mettre en place des systèmes pédagogiques où on a l'activité de l'élève qui va être davantage mobilisée. On se souvient, Sarah Benz, celle qui a commencé ces fameux poils à tricoter. En fait, elle prenait les enfants, pendant que les parents étaient dans les champs, les enfants erraient, étaient livrés à eux-mêmes, les prenait là pour leur lire des histoires en français, parce qu'on ne parlait pas toi, et leur apprendre à tricoter, ça faisait un gain pour la famille. Et puis du coup, donc, c'est l'ancêtre des écoles maternelles qui se met en place. Louis Schaeffer va être engagé comme bonne par Oberlin, donc payé mon sens, à un salaire. C'est les premières institutrices qui sont payées par. Et donc, elles vont être dans ce rôle de conductrice de jeunes enfants, de tendres enfants, je ne sais plus comment c'est exactement. Les premières lanternes magiques, vidéoprojecteurs, l'ancêtre est là, pour projeter à la fois des scènes bibliques, des scènes aussi de la vie de tous les jours, un enseignement qui se fait à travers ces moyens pédagogiques qui sont bien différents de simplement la traduction des textes anciens en français ou en persan. On va sortir avec les enfants dans les champs pour creuser des tranchées, pour retenir l'eau dans les champs, pour chercher et constituer un herbier, pour classer toutes sortes d'objets. Et puis un objet assez rigolo que vous verrez au musée, c'est l'œuf de coq. Alors moi j'ai appris au Tchad que le premier œuf qui est pondu dans un poulailler, c'est toujours l'œuf du coq. Nous n'avions que des poules. Mais on a dit si, il passe par le mur. Donc ça veut dire que ça existait tout à fait déjà au bord de la roche. Donc, ce genre de choses. Félix Neff, qui est l'Oberlin des Alpes, rappelait que bon, c'est un évangéliste, instituteur, il ne pouvait pas être pasteur parce qu'il n'était pas français sous le concours, il fallait être français pour être pasteur, qui allait dans ses coins reculés comme Oberlin. Et ce qui est intéressant de là, c'est voir l'église à gauche et le bâtiment de droite, c'est l'école qui est associée, qui est à côté, avec tout un engagement de l'instituteur et de l'évangéliste, qui est à la fois le pasteur, qui est à la fois l'instituteur, des choses qui se mélangent. Les premiers instituteurs du banc de la Roche, avant Oberlin, ce sont des pasteurs proposants de la région de Montbéliard, qui parlait français, qui venaient et qui étaient en fait en stage auprès d'un pasteur titulaire. et qui faisaient leur stage en étant instituteurs. Hein. C'était vraiment des choses assez confondues à l'époque. Alors, de Pestalozzi, alors là, on est en Suisse. On est dans à Stein, ça c'était l'orphelinat, c'est pas mal occupé d'enfants qui étaient orphelins. Et avec lui, on peut voir quelques traits de cette sensibilité qui était celle des piétistes de l'époque. C'est une idée d'une école qui est comme une famille. L'enfant doit se retrouver à l'école comme dans la famille. Donc l'aspect affectif qui va rentrer en ligne de compte, alors qu'il y avait une distanciation avant dans l'humanisme qui était plus grande, en tout cas, qui n'était pas la même chose. L'idée d'expérimenter, donc le travail des mains, on fabrique. Et quelqu'un comme qui va être ministre en France de l'éducation, Guizot, a été scolarisé au collège de Genève, et il dit qu'il s'est ennuyé à mourir pendant ses études. Il a appris à dessiner, il a appris la menuiserie, parce qu'il y avait une école, un institut de joue, qui était une école de commerce, et plusieurs écoles comme ça qui s'ouvraient, où il y avait ces principes d'activité qui étaient là. Il a appris un certain nombre de choses de ce type. L'idée, c'est de comprendre avant d'apprendre, pas seulement apprendre par cœur sans avoir vraiment compris. L'idée de développer un potentiel, alors qu'on était plutôt dans l'idée plus pessimiste au niveau anthropologie. Avant, l'enfant, c'était le vase vide qu'il faut remplir. Aider ses pairs, ceux qui savaient un peu plus, aider ceux qui savaient moins. Il n'y a pas la concurrence entre les élèves. Puis, les idées de nature, de progrès, alors avec l'enseignement aussi, bien sûr, intellectuel, la transmission qui est là. À cette époque-là, les familles notables, aristocrates, avaient des tuteurs qui venaient, des précepteurs qui éduquaient à la maison. Et ça, c'était quand même normalement le modèle classique. Les marchands ambulants étaient aussi souvent des instituteurs. Alors, on les reconnaissait assez bien à leur chapeau. C'était leur brevet, ça. S'ils avaient une plume, ils savaient un peu lire. S'ils avaient deux plumes, ils savaient lire, écrire. Si on avait trois, ça avait même un peu compté. On n'est pas dans la même formation que dans l'humanisme. Vous avez des enseignants très très bien formés. Et là, on a un préceptorat donc simultané. On l'avait vu tout à l'heure avec l'autre image. C'est-à-dire que le maître regroupe souvent, c'est aussi dans les tables, parce qu'il fait plus chaud, les enfants qui viennent un à un pour réciter leur leçon, dans l'ancien système, à ce qu'on appelle l'ancienne méthode. Et les autres sont censés travailler, mais c'est pas Montessori où tout le monde est calme. Vient la Révolution, alors avec tous les excès de la Révolution, je cite ici Danton, il est temps de rétablir ce grand principe que l'on semble tous méconnaître, que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Alors, en fait, c'était la question de l'Église qui était majoritaire avant, qui était maintenant mise à pied. Et du coup, c'est les parents qui transmettaient cette religion dont on ne voulait pas, qui était le catholicisme. Et cette tension, à qui appartiennent ? Est-ce que c'est l'enfant ? Est-ce que c'est l'élève ? Et on peut peut-être retrouver des choses aujourd'hui, des questions qui se posent sur la place de l'enfant qui est pris entre les deux. Et pour les protestants, il y a un problème important au début du XIXe siècle, c'est la reconstruction du protestantisme qui renaît de ses cendres. Certains disaient on préfère l'ignorance à l'erreur. Il n'y avait pas d'école protestante, on renaît de ses cendres. Et les parents ne voulaient pas envoyer soit des maîtres, qui étaient souvent catholiques parce que la France était catholique en général, et pas non plus chez les prêtres. Et donc cela posait un gros problème. Alors, pour redynamiser les écoles, les églises, pour aider en particulier les Anglais, ont beaucoup favorisé la multiplication des écoles du dimanche avec des subventions, avec des livres, avec des bibles. Mais le premier problème rencontré par les pasteurs et ceux qui voulaient s'impliquer dans ces écoles du dimanche, c'est que les enfants ne savaient plus lire. Et donc, l'école du dimanche sera, au tout départ, au début du XIXe siècle, le lieu où on apprend à lire. C'est Orfeur également qui... son école se déroule en deux temps. Il y a d'abord les exercices de lecture et ensuite l'instruction religieuse. On oublie aujourd'hui peut-être que l'école du dimanche faisait cela. Le premier comité d'encouragement des écoles du dimanche, qui est créé en 1825, préconise de commencer l'apprentissage et la lecture qu'auprès des enfants qui savaient lire. Et donc ils vont publier un alphabet que vous trouvez dans... un ouvrage derrière où on l'a reproduit pour apprendre à lire avec aussi des petits textes qui parlent de Dieu. Et Gauthier recommande de ne pas prendre la Bible pour un abécédaire. Alors Gautier, c'est pasteur de Pestalozzi à la fin de sa carrière à Yverdon. Il a été formé en tant que pasteur à Lausanne. Il a été touché par le réveil de Genève, devient le premier directeur de l'école normale du canton de Vaud à Lausanne. Puis ensuite, quand il y a la révolution dans la région, il va, avec 156 pasteurs, démissionner pour ensuite, lui, venir en France et devenir le premier directeur de l'école normale d'instituteurs protestants de Courbevoie, qui était allié à la Société d'encouragement pour l'instruction primaire parmi les protestants de France, donc l'organe éducatif de l'Église réformée de l'époque. Et on a de lui pas mal d'écrits intéressants au niveau pédagogique. Ce premier comité des écoles dimanche me semble intéressant, juste de voir ce logo qui était là. D'un côté, vous avez, bien sûr, la Bible qui est centrale, les enfants d'Israël observant le sabbat, donc c'est le culte qui est mis en place, et en parallèle, Proverbe 22:6, c'est le fait que cet enseignement-là est lié avec une manière de vivre, une transformation, une manière de vivre. On l'a aussi avec ces écoles déguenillées. Alors, c'est une branche aussi qu'on méconnaît aujourd'hui des écoles du dimanche, pour les enfants les plus désocialisés, qui étaient les enfants des rues, qui étaient accueillis chez un artisan. On lisait la Bible, on étudiait la Bible. Et puis, il y avait aussi le travail manuel, et donc les choses allaient de pair, à la fois le religieux, à la fois le social, qui étaient imbriqués et liés, et présentés comme une manière de sortir de la misère. Et ça, c'est le modèle socratique qui est souvent employé, donc le dialogue entre le maître et l'élève. Mais c'est aussi la période où se développe l'éducation mutuelle, qu'on a souvent considérée comme une école protestante, un modèle protestant, parce que plus démocratique. L'avantage là, c'est qu'on n'a pas besoin de maîtres très formés. On a besoin simplement qui savent un peu plus que les élèves et qui vont transmettre. C'est le moniteur d'école du dimanche qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas forcément le pasteur qui a fait des études en théologie, mais des gens qui vont se... Et le premier formateur de ce modèle d'éducation pour la société d'instruction élémentaire, qui est une société, alors elle, qui est pour la première, pour le coup, la première société laïque au sens d'une société inclusive, qui inclut à la fois les catholiques et les protestants, c'est le pasteur François Martin Fils, qui ouvre une première école normale sur ce modèle d'éducation à Paris en 1815. Et après, il fera des choses à Bordeaux et dans le sud de la France. Mais bon, après on va dire le dimanche ça suffit pas, donc on va faire un peu plus, et c'est la société d'encouragement pour l'instruction primaire parmi les protestants de France qui s'ouvre. Et cette société, pourquoi est-elle ouverte? Alors le prospectus le dit dès le départ, bien, à l'époque, il y a une loi qui dit qu'une école est soit catholique, soit protestante. Donc forcément, c'était une nécessité. Deuxième raison, c'est que les familles protestantes n'osaient plus envoyer leurs enfants, ou n'osaient pas envoyer leurs enfants dans l'école, et donc... Pour avoir confiance, on crée des écoles protestantes. Mais dès le départ, Guizot fait partie des fondateurs. Il sera président de cette société, le deuxième président. Il y avait ce souhait d'avoir des écoles mixtes quant à la religion. Donc avoir un enseignement qui soit religieux dans le cadre-là, parce que c'est de toute façon obligatoire, mais qui puisse convenir aux protestants et aux catholiques. Sauf qu'à cette époque-là, les mentalités n'étaient pas prêtes pour ce genre de choses. Donc ce n'était pas encore le moment. Qu'est-ce que l'éducation pour Gautier, qui est le pédagogue qui a écrit un certain nombre de choses qui nous restent aujourd'hui de ce temps-là, c'est le développement de la pensée hors de Dieu conduit à des abîmes, avec Dieu, en Dieu, elle a sa règle, son aliment, sa lumière. Et la culture religieuse est la seule qui puisse donner quelques libertés solides au peuple, aux nations. En culture religieuse, c'est-à-dire pas forcément, on n'est pas sûr qu'il y ait un engagement personnel de la foi derrière, mais en tout cas au moins une culture religieuse au départ, ce qu'on appellerait peut-être le fait religieux aujourd'hui, en instruction générale. Et Guizot, l'instruction n'est rien sans l'éducation, l'éducation n'est pas sans la religion. C'est le premier ministre de l'éducation en France qui a organisé la première grande loi d'éducation en 1833. C'est lui qui va faire le choix pour l'éducation en France du modèle d'éducation simultanée. Bon, pour la plupart d'entre nous sont notamment connus. On a parlé de la Troisième République, mais c'est déjà avant, c'est en 1833 qui, dans ces années-là. Tout simplement parce qu'il estimait qu'il fallait plutôt bien former les maîtres et avoir des maîtres mieux formés pour pouvoir avoir une formation de meilleur niveau, de meilleure qualité. Mais bon, il fallait trouver des solutions, de toute façon, pour une massification de l'éducation à ce moment-là, et c'est donc lui qui choisit ce modèle-là. Et pour lui, le vrai but de l'éducation, c'est d'accomplir le plan de Dieu à l'égard des hommes, de réaliser l'idée d'humanité telle que Dieu l'a vue dans son conseil, en sorte que cette humanité atteigne son plus haut point de développement. Alors, c'est la seule photo que j'ai trouvée de l'école normale de Courbevoie, qui maintenant est un terrain, il y a un collège. Hein, ouais, ouais. Alors, un mot d'anthropologie, parce qu'il me semble intéressant de voir comment il a conçu cela, voir la manière dont il considérait la personne dans sa globalité. Enfin, je fais appel à vos souvenirs de catéchisme. Luc 2, 52 parle de Jésus qui a 12 ans. Il nous a dit, il croissait. Ah ouais, d'abord en stature, ouais, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il part de là pour dire que c'est dans ces différents domaines qu'il va falloir intégrer l'éducation. Alors il y a un calvinisme classique qui divise l'homme en deux parties, l'homme extérieur, serviteur de l'homme intérieur, et puis ensuite l'éducation va aller toucher ces différentes parties. D'une part, l'aspect physique, le corps, et le travail manuel fait partie de cela. La transmission des choses intellectuelles qui vont nourrir l'intellect, la foi et l'aspect affectif, l'aspect social pour goûter. On ne peut pas être un autodidacte, hein, il faut travailler avec l'autre, c'est l'aspect social qui rentre en ligne. Et qui montre ces quatre parties de la personne qui demandent à ce qu'elle soit éduquée. Je vois le temps qui passe, on va terminer très vite. On est là avec un autre protestant, Ferdinand Buisson, qui est en général celui que les gens citent quand on parle d'éducation protestante et de la Troisième République. C'est lui qui a une grande foi avec voir l'école comme la planche du salut. Encore aujourd'hui, on dit qu'il faut l'éducation quand on fait du développement, parce que c'est ça qui va chambouler toute chose. Donc il est tout à fait dans cette perspective. Et d'un point de vue de la foi, il est un protestant connu et qui connaît bien les Écritures, mais qui est de la mouvance libérale et même ultra-libérale. Il va dire en 1911 une conférence, un Dieu miséricordieux qui veut sauver ses victimes et qui pour cela n'a d'autre moyen que de frapper cruellement à leur place son fils innocent, non, ce Dieu n'est pas le nôtre et nous ne saurions demander à nos enfants d'y croire. Donc il a une autre perspective, ça fait partie des protestantismes en général, mais on est dans une autre perspective que celle qu'on a eue, et on va avoir le courant du positivisme aussi qui va se développer à partir de ce moment. Mouvement contre lequel Guizot s'était largement élevé. Alors, beaucoup de gens vont dire, mais regardez, c'est bien ça les protestants. Il y avait 1500 écoles au moment de la loi Ferry. Quand la loi Ferry est promulguée, 1000 deviennent des écoles publiques. Et puis 500 très peu de temps après. Donc c'est normal, tous les protestants étaient de la ligne de Buisson. Alors, si on tient compte du synode officieux de Nantes, on a demandé aux protestants nombre de ces églises de se positionner. Est-ce que vous êtes favorable à la loi Ferry? 29% ne se prononcent pas, 35% approuvent, et puis 36% désapprouvent. On peut dire au moins qu'il n'y a pas une unanimité qui est faite en 1884. On va la voir aussi dans l'école normale, on a deux courants qui vont être en tension. Ceux qui sont les inquiets, le directeur à ce moment-là, c'est le gendre de Gauthier, c'est Godard, et les familles qui habitent les régions protestantes ont tout à perdre. Les autres ont tout à gagner, puisqu'elles ont maintenant une école gratuite. Leur crainte, c'était d'avoir une école prosélyte. Alors, elles n'en voulaient pas. Alors, à quoi bon avoir une école encore protestante? Et si on regarde un petit peu plus près les chiffres, on se rend compte qu'au moment où est promulguée la loi Ferry, il y a pratiquement 1000 écoles qui sont déjà des écoles communales, des écoles publiques. Donc c'est normal qu'elles tombent dans l'escarcelle tout de suite de l'école publique. Pour les autres, eh bien les instituteurs avaient tout à gagner à être dans le public. Ils avaient une retraite qui était promise, les hommes n'étaient pas soumis au service militaire, ils avaient un salaire. Et puis il y avait de moins en moins d'écoles aussi protestantes, donc pour avoir un job, ce n'était pas du tout évident. Ben, les familles qui ne mettaient leurs enfants dans une école protestante que pour prémunir du prosélytisme catholique, mais ils étaient tranquilles, hein, ils étaient plus de problèmes avec l'école publique. Puis donc les donateurs aussi, il y a eu le partage entre ceux qui étaient pro et moins, qui vont diminuer, et donc il y a de moins en moins. On peut l'expliquer donc de la sorte aussi. Le professeur Lichtenberger dit quelque chose qui me semble intéressant. Lui se positionne en 82. Je regrette la mesure qui supprime l'enseignement religieux de nos écoles communales. Je la regrette comme chrétien, parce que je ne crois pas que l'on puisse séparer l'instruction de l'éducation, ni l'éducation de l'influence religieuse dans les écoles primaires. Je la regrette comme français, parce que je suis jaloux de la valeur morale de mon peuple, de cette valeur. Est-ce que cette valeur, l'Évangile seul peut la confère, l'entretien, la garantie? Je regrette comme républicain parce qu'elle crée des ennemis à nos institutions, des embarras au gouvernement, et il rajoute, on nous laisse pour nous donner l'instruction religieuse, outre le dimanche, le jeudi, qui correspond au mercredi aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que beaucoup de gens aujourd'hui, ça, à part le rythme, les discussions sur le rythme scolaire, pourquoi le mercredi est le congé, enfin, au moins une partie. Veillons à ce qui nous appartient bien réellement, réclamons avec énergie, avec obstination, contre les envahissements d'un zèle indiscret, illégal. Déjouons par nos justes et incessantes revendications les entreprises du fanatisme irreligieux et surtout créons sans retard les écoles du jeudi, multipliant-le sur les surfaces du pays. Avec les écoles du dimanche, se créent les écoles du jeudi qui vont être aussi, qui vont pallier le fait qu'il n'y a plus d'enseignement religieux dans les écoles. Et je termine avec cette espèce de synthèse. On a vu que l'humanisme visait le retour à l'être antique par imprégnation avec beaucoup de mémorisation, donc on n'est quand même pas si loin de ce qui se passait avec les humanités avant. L'idée c'est de reproduire, mais il va y avoir la piété qui va être rajoutée avec toute une imprégnation de l'évangile dans le cadre de la formation. Pour le piétisme, avec l'Ostlerum, donc les lumières, mais essentiellement avec l'imprégnation du religieux, on va avoir une vision plus optimiste de l'homme, on va mettre l'activité en marche, développer le potentiel de l'enfant. Et l'idée sera plutôt de produire dans quelque chose de plus fonctionnel, on est plus dans le quotidien. Sur les questions de doctrine, on sera moins à cheval. Sur les questions de doctrine religieuse, on sera plus dans l'émotion, l'affectif. Et pour le 19e siècle, même en anthropologie, on peut dire plus réaliste, après la révolution, après les confusions diverses et variées, on va avoir un courant qui est ce courant de Guizot et de Beauté, qui va mettre l'accent à la fois sur l'activité et la mémorisation. C'est le français pour les écoles populaires, le latin, les écoles, le petit collège reste toujours, et il va rester aussi après la loi Ferry, hein, si vous voulez faire le bac. Là, c'est l'école en français aussi pour la constitution de la nation, et pour que les meilleurs deviennent les instituteurs des enfants du peuple. On a l'enseignement d'histoire qui va se développer, des sciences, il y a aussi toute l'industrie qui se met en place, il y a des découvertes qui se mettent aussi en route. Et l'école, la piété, comme fondement de la morale, va être dans l'école avec Voté, avec Guizot, et ensuite hors de l'école avec les lois Ferry. Et c'est l'idée de devenir un citoyen responsable pour... Le premier courant, c'est un citoyen responsable parce qu'il est chrétien, et les autres, c'est un citoyen responsable, il peut être chrétien ou autre chose.